Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. L'automutilation européenne continue. Après le Brexit et un État membre, en moins le Royaume-Uni, la Commission européenne est-elle en train d'abandonner ses pouvoirs? Je m'explique. L'Union européenne dispose d'une compétence exclusive sur les questions de commerce international. Or, Jean-Claude Juncker avait dit qu'il n'y aurait pas forcément de ratification parlementaire sur le CETA. C'est l'accord de libre-échange avec le Canada, parce qu'il avait décidé que c'était le cas et parce que les services juridiques de la Commission européenne avaient considéré que ce n'était pas la peine. Or, la Commission européenne, finalement, a capitulé, a cédé face à la pression de certains États en disant qu'il y aurait une ratification parlementaire en raison du risque politique. Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Est-ce que vous avez le sentiment, on va y revenir, on va comprendre en quoi consiste ce CETA, en quoi consiste cette capitulation de la part de la Commission européenne. Considérez-vous que la Commission européenne a abandonné ses pouvoirs?
C'est extraordinaire. Vous êtes comme les europhobes, en fait, Yann Anthony. Je m'en ai pas rendu compte. C'est-à-dire que la Commission européenne dit « Ah ben finalement, je tiens compte des circonstances politiques et donc je vais soumettre le CETA aux ratifications des parlements nationaux en plus de la ratification du Parlement européen. » Vous dites « C'est une capitulation. » Et si elle avait fait le contraire, vous dites « Ah, c'est un vol des peuples. Ah, on méprise les États. Oh, c'est incroyable. » Non, elle a fait
une vous allez le prendre sur ce ton-là toute l'émission.
Toute l'émission.
Le CETA, ça veut dire « Comprehensive Economic Trade Agreement ». Quand on dit « comprehensive », ça veut pas dire que c'est compréhensif. Ça veut dire que c'est complet. C'est un faux ami. Attention. Bonjour Emmanuel Morel.
Bonjour.
On dit que vous êtes eurodéputé socialiste français. On entend souvent que le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, dont la négociation a démarré en 2008, elle s'est terminée en 2014, en septembre 2014. Ça n'a toujours pas été ratifié. Ça devrait être ratifié à l'automne. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, doit venir à Bruxelles. Quand on dit que, alors c'est le cousin du TAFTA, le TTIP, mais quand on dit que c'est le cheval de Troie du TTIP, ça veut dire quoi?
Je sais pas s'il faut reprendre à notre compte ce genre d'expression. Ce qui est vrai, c'est que les problèmes posés par le TTIP, on les retrouve en plus petit dans le CETA. Après, je reviens quand même à votre question parce que c'est une façon d'en entrer en matière un peu spéciale. La vérité, c'est qu'il y a une émotion qui est suscité par les négociations de libre-échange. Pourquoi? Ça a été fait dans d'une telle opacité, dans une telle absence de transparence que les gens sont inquiets, légitimement inquiets. Et pour une fois, c'est là que je vous rejoins pas, pour une fois, la Commission en tient compte et dit, puisqu'il y a une émotion, puisque franchement, l'Europe n'est pas au mieux de sa forme, le mieux, c'est d'avoir un double niveau de sécurité démocratique. On demande aussi leur avis aux parlements nationaux. Franchement, on va pas en faire un drame. Hein.
Bonjour Charles Lemarcy. Bonjour Charles Lemarcy.
Bonjour Yann.
Directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. Alors vous êtes sur quelle ligne? Vous pensez que c'est un pas en arrière de la part de la Commission européenne ou vous pensez que c'est une victoire de la démocratie au sein de l'Union européenne?
La démocratie, c'est aussi représentée par le Parlement européen qui doit valider l'accord de libre-échange. Là, la Commission décide politiquement que c'est un accord mixte, c'est-à-dire qu'il doit aussi passer devant les parlements nationaux. Ça veut dire 38 parlements nationaux en pratique. On sait déjà qu'il y a des parlements qui seront très réservés. La Wallonie, on a eu le Luxembourg, les Pays-Bas. Donc ça pose quand même la question de est-ce qu'ils veulent vraiment que cet accord soit validé in fine. Et puis évidemment, c'est pas le cheval de Troie du TTIP, mais ça présage que le TTIP sera aussi un accord mixte. Et alors là, bon courage.
Revirement de la Commission sur le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le politique l'emporte-t-il sur le juridique et l'économique? Emmanuel Morel fronce les sourcils. pour réagir, hashtag 500ME. Alors, le CETA avait pour objectif initial, alors on connaît les statistiques de la Commission européenne, le CETA, avec grâce au CETA, demain on rase gratis, une augmentation de près d'un quart des échanges de biens et de services entre le Canada et l'Union européenne et 12 milliards d'euros de PIB en plus pour l'Union européenne, ce à travers l'élimination des droits de douane permettant aux exportateurs européen d'économiser sur les produits manufacturés et sur les produits agricoles. Voilà, ça c'était le produit d'appel, on va dire, pour le CETA. Maintenant, Jean Quatremer, j'ai lu votre blog, j'ai rien compris. Donc si vous pouviez m'expliquer, il y a eu une bataille juridique, d'accord, autour du statut finalement de ce CETA concernant la mixité.
En fait, il faut savoir qu'avant le traité de Lisbonne, alors accrochez-vous, hein, c'est pas simple.
2009.
C'est l'Union européenne, il va falloir se tenir. Avant 2009, les accords de libre-échange, qui étaient signés, les accords de commerciaux, qui étaient signés par l'Union européenne, ne passaient pas devant le Parlement européen. Mmh. D'accord? Et s'ils étaient des accords purement européen. Mais parfois, ces accords touchaient des compétences nationales dans quelques domaines. Par exemple, la propriété intellectuelle, on
Exactement.
Va dire.
L'éducation, la santé.
Voilà. Et dans ce cas-là, ça devait passer devant les parlements nationaux. Donc c'était le choix, c'était ou devant les parlements nationaux ou une adoption uniquement par les États à Bruxelles et pas de Parlement européen. En 2009, révolution démocratique. On dit, ah écoutez, ben voilà, maintenant tous les accords commerciaux vont passer devant le Parlement européen, mais ça passera toujours devant les parlements nationaux si ça touche, encore une fois, la propriété intellectuelle, l'exception culturelle, etc., etc. C'est encore plus compliqué, hein, mais là je la fais simple. Et donc, tout le débat qui s'est autour du CETA et autour du futur traité transatlantique, c'était de savoir si ça touchait des compétences nationales ou pas. A priori, non.
Le service juridique de la Commission européenne a dit que non.
Absolument.
A priori, le service juridique de la Commission européenne, c'est pas les plus courageux de la planète non plus.
Non,
donc,
voilà.
S'il y avait eu...
Le moindre risque, voilà, on aurait dit c'est un accord mixte. Là, ils disent non, c'est vraiment compétence purement européenne. Et en plus, on volait pas la démocratie, puisque le Parlement européen, qui est démocratiquement élu, Monsieur Morel qui est ici, est démocratiquement élu, il représente les citoyens européens, aurait voté cet accord. Mais là, c'était tellement touchy, parce que à cause des opinions publiques qui étaient
sensibles,
très sensibles,
voilà, pour nos auditeurs et téléspectateurs français, francophones.
J'ai décidé de parler anglais.
Franglais, là.
J'ai décidé de parler anglais, puisque les Anglais s'en vont maintenant, donc résistance. Et donc, la matière était tellement sensible que la Commission a décidé d'en faire politiquement un accord mixte qui va passer devant les parlements
Donc le 29 juin, Jean-Claude Juncker, on était au lendemain du Brexit, Emmanuel Morel. Le 29 juin, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, décide de se passer de la ratification des parlements nationaux pour conclure cet accord, parce qu'il s'est dit, ce n'est pas un accord mixte, donc ça relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. Donc ça va être voté par le Conseil, donc les représentants des gouvernements nationaux, et voté par le Parlement européen. Pas besoin de parler
Il sera voté à l'unanimité, Yann Anthony.
À l'unanimité. Sauf qu'il y a plusieurs pays, dont la France, dont l'Allemagne, qui ont dit non, nous, on veut que ça passe devant nos parlements. Est-ce que c'est une bonne chose que ça passe devant les parlements? Je connais votre réponse.
Le problème, c'est qu'on parle de questions juridiques, où là, en effet, il y a une différence entre les compétences exclusives, les compétences partagées, le texte du traité de Lisbonne, qui n'est pas toujours très clair d'ailleurs, et la politique. Enfin, regardez l'état de l'Europe. Il y a le Brexit. Il y a quand même beaucoup d'opinions qui se détournent de l'Union, pour des bonnes et des mauvaises raisons. C'est quand même un peu la crise partout, y compris la crise dans les États membres. La crise en France, la crise en Italie bientôt, la crise en Grande-Bretagne, la crise en Espagne. Et à juste titre ou non, les gens, les opinions, se focalisent sur un certain nombre de problèmes. Récemment, le problème Barroso, les traités de libre-échange, quand vous faites une réunion publique là-dessus, je peux vous dire, j'ai jamais vu autant de monde dans les réunions publiques. Les gens sont inquiets, les gens veulent savoir. Et surtout, les gens ont le sentiment que tout ça se négocie dans leur dos par des gens qui ne sont pas légitimes. Ça, c'est le contexte politique. Alors, à un moment, Juncker, tout président de la Commission qu'il est, il fait de la politique. Et d'ailleurs, peut-être plus que son prédécesseur, de ce point de vue-là, c'est notable, parce que vous parliez des chiffres totalement fantaisistes de la Commission, si en effet, qui balance sur le TTIP, elle dit, à horizon 2030, chaque Européen va gagner 300 euros de pouvoir d'achat. Pourquoi? On ne sait pas. Les calculs, on ne sait
jour.
Pas non plus. Mais vous voyez, cette sorte d'optimisme un peu béat. Voilà. Alors, Madame Malmström le fait avec le sourire. Son prédécesseur, Monsieur De Gourcq, le faisait.
Cécilia Malmström, la Suédoise,
la commissaire
libérale,
au commerce,
commissaire au commerce.
Commerce international. Son prédécesseur, Monsieur Godour, De Gourcq,
le Belge.
Assénait ça de façon un peu brutale, sans avoir rien à foutre de la vie du Parlement européen. Donc là, ils font de la politique, et c'est tant mieux. Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un accord de libre-échange, tous les parlements nationaux soient consultés? À l'évidence, non. Mais pourquoi est-ce que le Parlement européen n'est pas légitime sur les accords de libre-échange? À l'évidence, oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'accords de libre-échange dont on ne parle pas, qui passent devant le Parlement. Nous, on ne négocie pas, mais on supervise et à la fin, on dit oui ou non. Là, compte tenu de l'émotion en Europe, compte tenu aussi du doute par rapport à la construction européenne et son caractère démocratique, je trouve ça bien qu'il y ait un débat. Et vous allez voir, le CETA, c'est à peu près 2000 pages pour l'instant,
voilà,
en anglais.
Vous l'avez sur la table, parce que c'est donc comme... on le voit en télé, et puis vous avez tapé dessus, on l'entend en radio, c'est des centaines de pages.
Et c'est uniquement en anglais pour l'instant.
C'est uniquement en anglais.
Charles
de Marcy, en attendant, la mise en œuvre de ce CETA ne va pas attendre la ratification de tous les parlements nationaux. Vous disiez qu'il y a 38 parlements nationaux et régionaux en Europe. Moi, j'avais noté qu'il y en avait 42, parce que justement, en Belgique, il y a le Parlement
j'avais
wallon,
intégré
le Parlement
les
flamand, etc.
C'est
le
chiffre donné par le Financial Times. Mais bon, c'est les Anglais, donc peut-être qu'ils sont...
Donc, peut-être qu'ils se sont déjà retirés eux-mêmes. Ils ont enlevé le Parlement écossais, le Parlement... Non, mais du coup, il va... déjà y avoir une entrée en vigueur de ce
provisoire.
Traité. Provisoire.
Donc il y a deux choses, je pense, qu'on peut garder à l'esprit. C'est que ça va entrer en vigueur de façon provisoire, ce qui pose après des questions de sécurité juridique majeures. Et puis le second, c'est que la Commission se protège aussi, parce qu'elle dit que politiquement, c'est mixte, juridiquement, ça ne l'est pas. Mais pour le confirmer, elle demande à la Cour de justice de préciser quelles sont les parties qui font l'objet d'une certaine mixité, donc d'une compétence nationale. Si la Cour dit qu'il n'y en a pas, bah, on va reposer encore cette question de cette légitimité politique par rapport à ce levier
Et l'examen
juridique.
Des parlements nationaux ne se fera que sur les points relevant de la compétence des États membres ou sur l'ensemble de l'accord ?
Sur l'ensemble.
D'accord.
Donc,
a priori,
c'est pas
on se dirige vers quoi? Les Wallons, déjà, vous les mentionniez tout à l'heure, Charles, ont déjà dit qu'ils n'étaient pas favorables à ce traité.
Ils n'étaient pas favorables. Le Luxembourg a discuté.
Alors,
ils sont pas contre dans la
Les Néerlandais.
C'est qu'ils demandent certaines précisions sur des parties de l'accord. Les Néerlandais, c'est pareil. On peut supposer que d'autres parlements vont le suivre. Et je vous rejoins tout à fait sur cette question de communication vis-à-vis du grand public. Parce qu'on se retrouve, en fait, sur les accords de libre-échange. Ah, c'est l'ultralibéralisme ou pas? Et donc, on est presque sur le dogme, en fait, du libre-échange. Et la Commission qui met des chiffres sur la table, d'ailleurs qui ne viennent pas de la Commission, c'est des études qu'elle commande et ce qu'elle n'est pas capable de faire de façon
qu'elle
sélectionne. Et donc on se retrouve en fait dans une configuration presque idéologique du libre-échange, sans de points pratiques.
Et pourquoi, on est toujours dans l'idéologie, la raison pour laquelle Charles, le Parlement wallon, où le Parlement luxembourgeois s'oppose à ces
deux... c'est deux idéologies différentes, si vous prenez ces deux parlements. Sur le luxembourgeois, vous avez quand même des questions assez spécifiques.
Liées aux services financiers.
Sur la Wallonie, quand j'ai vu les débats, sincèrement, il y avait une démarche idéologique assez forte, beaucoup plus forte que sur les luxembourgeois.
La Commission européenne abandonne-t-elle ses pouvoirs? On parle du revirement de la Commission sur le CETA, avec nos invités, Emmanuel Morel, Charles de Marcy, Jean Quatremer, à tout de suite après un court message publicitaire.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Alors, pendant la pause, on a eu un débat qui était assez court. Ici, on est en plateau au Parlement européen à Bruxelles avec Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman et Jean Quatremer de Libération et du blog Coulisses de Bruxelles. La question de cette émission, la Commission européenne abandonne-t-elle ses pouvoirs? S'agit-il d'une nouvelle automutilation après le départ du Royaume-Uni? Enfin, ça pourrait prendre un petit peu de temps, mais a priori, après le Brexit. Et là, cette fois, la perte... sur un volet de compétences exclusives en matière de commerce international. Parce que Jean-Claude Juncker avait dit le 29 juin qu'il allait se passer la ratification des parlements nationaux pour ratifier l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, et puis quelques jours plus tard, le 5 juillet, Cécilia Malmström, la commissaire en charge du commerce extérieur, elle a dit que finalement, on allait faire ratifier cela par les parlements nationaux et régionaux. Il y en a 38 ou 42 selon la police ou les manifestants en Europe. Donc il faudrait l'unanimité de 42 parlement à travers l'Europe. Donc on a presque le sentiment que cet accord CETA potentiellement est mort-né. Emmanuel Morel.
Non, je ne dirais pas ça. Je veux dire, si vraiment ceux qui négocient le CETA sont convaincus que c'est un bon accord, si les gouvernements des principaux États membres sont convaincus que c'est un bon accord pour les économies, pour les salariés, pour les consommateurs. Bah, c'est l'occasion d'en faire la preuve. À un moment, on va quand même pas avoir peur de la démocratie. C'est un accord de libre-échange, c'est compliqué.
Donc pour vous, le Brexit, c'est une bonne chose. Le vote et le référendum sur le Brexit, c'est une bonne chose, par exemple. Votre raisonnement.
Je regrette le Brexit, mais le peuple anglais souverain s'est exprimé.
Donc vous êtes favorable, par exemple, à un référendum en France sur le Frexit.
Est-ce que j'ai dit ça, moi?
Non, on parle de la démocratie et du principe de la démocratie.
La question ne se pose pas en France. Personne, à l'exception de l'extrême droite, demande
donc
un référendum.
C'est une démocratie à géographie variable, à géométrie variable.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, c'est quand même formidable que le peuple s'exprime, donne son avis. En France, la question, c'est pas tellement. La plupart des gens ne veulent pas sortir de l'Europe. Ils veulent plus de cette Europe-là. C'est le cas dans la majorité des États membres. Et les gens s'expriment par le vote. Les référendums, c'est très bien. Mais là, on sort complètement du sujet. Si l'accord de libre-échange, il est bon, si vraiment c'est pour une chance pour nos salariés, nos consommateurs, nos entreprises, eh ben il y aura un débat et ça sera ratifié. Il y a des accords qui sont bons, hein, parce qu'on n'en parle jamais, mais...
Rappelons quand même que l'accord de Marrakech qui a créé l'Organisation mondiale du commerce a été ratifié par les parlements nationaux. Ça ne veut pas dire parce que ça passe devant les parlements nationaux que ça va être rejeté. Là, il n'est pas la question. Mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier dans vos questions, c'est que la chose n'était pas claire puisque des parlements se sont déjà prononcés. Des parlements nationaux sont en train de travailler sur cet accord. Donc, d'un seul coup, si la Commission avait dit « Ah mais non, Parlement wallon, Parlement luxembourgeois, le Parlement néerlandais, ce que vous avez fait, c'était juste pour de la blague, parce qu'en réalité, c'est une compétence purement européenne, donc ça passe pas devant vous. Et on vous reprend le traité. Vous n'allez pas à le faire. Vous imaginez ce qui serait passé? Parce que le Luxembourg, c'est quand même pas des révolutionnaires. Les Néerlandais, c'est pas des révolutionnaires non plus. Les Wallons, un peu plus, puisque là, effectivement, c'est les socialistes qui dominent le Parlement wallon.
Les socialistes sont des révolutionnaires, ça, c'est un scoop.
En Wallonie.
En France, je vous assure, c'est plus le cas.
Voilà. Mais en Wallonie, c'est pas certain. Emmanuel dans l'opposition.
Emmanuel Morel qui est frondeur. Hein.
Voilà. Le problème qui s'est posé, c'est que là, tout le monde. Et honnêtement, pour tout le monde, cet accord devait passer devant les parlements nationaux. Et si la Commission avait dit « Mais non, au fait, j'ai oublié de vous le dire, c'est une compétence exclusive, et ça passe pas devant les parlements nationaux », alors que le débat national avait déjà commencé, c'est là qu'on aurait eu l'impression de vivre un coup d'État, même si juridiquement, ça n'est pas le cas. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de faire du juridisme. L'Europe, elle crève du juridisme. Et la Commission, elle crève d'avoir fait du juridisme sous Barroso, mais même avant. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette période-là. Quand Juncker est arrivé, il a dit « Je veux faire de la politique », et c'est la Commission la dernière chance. Oui. Face de la politique.
Charles Marcy. Sur ce critère, le problème, c'est que si ça doit être ratifié par l'ensemble des parlements...
Et alors ?
Ok, le Parlement wallon, c'est 0,7% de la population de l'Union européenne. Le Parlement néerlandais, c'est 3,3%. Et... le Luxembourg, c'est 0,1% de la population.
Le problème, c'est pas devant les parlements.
C'est que si c'est à l'unanimité, on risque d'avoir des facteurs de blocage de parlement qui représente 0,1% de la population sur un ensemble qui doit couvrir 500
millions. Ce qui est formidable, quand j'écoute Jean Quatremer d'une émission à l'autre, on parlait des travailleurs détachés la semaine dernière. Jean Quatremer nous disait, ce qui pose problème quand Manuel Valls dit on va cesser d'appliquer la directive sur les travailleurs détachés, le problème est d'ordre juridique. Il faut respecter la loi et l'état de droit. Là, en l'occurrence, la loi, l'état de droit fait que le service juridique de la Commission européenne dit que, a priori, ce n'est pas un accord mixte. Mais pour des raisons politiques, Jean-Claude Juncker dit c'est un accord.
Ça n'a strictement rien à voir avec l'état de droit. Vous confondez deux choses. Ça aurait été autre chose si la Commission avait dit finalement, je ne saisis pas le Parlement européen, je ne saisis pas les parlements nationaux et j'applique l'accord. Là, c'est une violation de l'état de droit. Là, c'était, on va dire, est-ce qu'on fait un peu plus de démocratie nationale ou un peu moins démocratie nationale?
Sauf qu'il n'y a aucun délai légal. Je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Là, je me prends bille en tête. Emmanuel Morel, Charles Marcy et Jean-Quatremer, je me sens en forme. Le calendrier, Emmanuel Morel, là, on part sur des ratifications régionales, nationales. Il n'y a aucun calendrier, il n'y a aucune contrainte de timing. C'est-à-dire que si la France ne veut pas ratifier avant 2050, elle n'a pas à le faire.
Non, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et puis, vous oubliez de préciser une chose importante quand même, c'est que le Parlement européen va voter avant la fin de l'année. À partir du moment où il vote... Et d'ailleurs, c'est un petit problème démocratique. Il y a une application provisoire sur ce qui ressort des compétences de l'Union, c'est-à-dire l'essentiel de l'accord. Déjà, vous allez voir que
c'est
le débat...
C'est un problème démocratique à partir du moment où le Parlement européen qui est élu démocratiquement l'aura voté.
L'application provisoire, pour les gens, ça va paraître bizarre parce qu'ils vont dire... On n'est pas forcément tous d'accord sur le CETA, mais il commence à s'appliquer. On a eu le même débat, d'ailleurs, sur l'accord d'association avec l'Ukraine, suite au vote néerlandais. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on devrait travailler politiquement, sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'application provisoire.
Pardon, juste précise, donc les Néerlandais qui ont fait un référendum, c'est un petit peu passé inaperçu,
qui ont fait un référendum
au mois de mars, je crois, sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine.
Ils ont voté et il ne s'est rien passé, comme souvent d'ailleurs. Ouais. C'est un peu le problème, c'est que les gens votent quelque chose, on peut le regretter ou pas, et puis il se passe rien. Et de ce point de vue-là, le visage de l'Europe n'en sort pas grandi. Mais là, sur le CETA, il faut quand même qu'on parle de l'essentiel, c'est-à-dire que pourquoi il y a un débat. Il n'y a pas de débat sur l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Hein. Il n'y a pas de débat sur l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Il n'y a pas de débat
sur l'accord
de libre-échange qu'on est en train de négocier avec le Japon, qui est très important pour les entreprises françaises. Pourquoi il y a un débat là? C'est parce qu'on n'est pas seulement en train de négocier la baisse des droits de douane. C'est qu'on parle de l'harmonisation des normes. Normes environnementales, normes phytosanitaires, normes sanitaires, normes agricoles. Et ça inquiète les gens. Pourquoi? Parce que c'est leur quotidien, c'est ce qu'il y a dans leur assiette. Et ils ont envie d'avoir des garanties. Moi, je trouve ça bien qu'on parle aussi du fond du CETA. Est-ce que oui ou non, au-delà des droits de douane, on est d'accord pour qu'il y ait 65 000 tonnes de viande bovine supplémentaire venant du Canada par an en Europe, 75 000 tonnes de porc en plus. Est-ce que oui ou non, on est d'accord pour ne pas faire figurer dans le texte du CETA le principe de précaution qui est cher aux Européens, qui est pas reconnu par les Anglo-Saxons? Est-ce que oui ou non, on est d'accord pour accepter la confrontation entre deux modèles agricoles très différents, le modèle européen qui est quand même majoritairement de l'agriculture paysanne et familiale, majoritairement, alors qu'au Canada, il y a eu une formidable évolution depuis 20 ans, ils sont complètement alignés sur le modèle américain. Ça, c'est quand même des questions dont on va parler.
De manière simple, dans le camp pro-CETA, il y a l'agro-industrie et les services financiers, et dans le camp anti-CETA, il y a les syndicats et les paysans.
C'est peut-être un tout petit peu caricatural parce que par exemple
ce matin il est caricatural.
Ça serait
vachement intéressant qu'on parle du contenu de la même façon que sur le TTIP. Au-delà de la peur légitime qu'on peut avoir des Américains, ça serait bien qu'on regarde concrètement ce qu'il y a dans le texte et ce qu'il n'y a pas. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est pas seulement ce qu'il y a.
Ce qui est intéressant, Charles de Marcy aussi, de voir, c'est que l'un des défenseurs de cet accord et de ces accords au sein de l'Union européenne, c'était le Royaume-Uni, c'était David Cameron, le Royaume-Uni qui quitte avec le Brexit. Bon, David Cameron exit lui déjà. Or, 42%
exit en chantant.
42% des exportations canadiennes vers l'Union européenne se concentrent sur le Royaume-Uni.
Ah ben, le Royaume-Uni va bien s'amuser, parce que c'est une nouvelle approche qui est assez récente d'ailleurs, ces accords de libre-échange, plutôt avec, vous l'avez cité, Karel de Gucht, 2009-2010, et on partait du présupposé, du principe que c'était bon. Le libre-échange par nature est bon, et donc on a renforcé en fait cette approche, faute en fait d'accord à l'OMC et d'une approche multilatérale globale. Et là, on a enchaîné les échecs. Donc on s'est dit, on va le faire en bilatéral, et l'Union européenne est collectivement plus forte. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ces différentes lignes rouges que vous avez citées, on peut les discuter au Parlement, mais logiquement, elles devraient être aussi discutées par les États membres lorsqu'ils donnent, qu'ils valident le mandat à la Commission. Et le débat public devrait être à ce niveau-là. Est-ce que le responsable politique national qui transmet ce mandat à la Commission, qui négocie au nom de l'Union européenne, a réellement ces lignes rouges et sait ce qu'il peut négocier ou pas? Alors sur le TTIP, ils disent que oui.
Vous savez que les mandats de négociation ne sont pas publics la plupart du temps.
Ils ne sont pas publics.
C'est ça qui est inouï.
Mais le débat pourrait être public s'il y avait un débat parlementaire.
Le Conseil et la Commission ne veulent pas le rendre public.
Sauf que du coup, on aurait un mandat de négociation public en Europe et pas public aux États-Unis, et donc de facto, les négociateurs ne seraient pas sur un pied d'égalité. En tout cas, c'est ce qu'argue la Commission européenne.
C'est l'argument de la Commission.
Moi, je trouve que votre argument sur le Brexit est excellent. Yann Anthony,
merci.
Oui, voilà, vous
reviendrez la semaine prochaine.
je me dis, à force de le bâcher, je ne vais plus revenir dans cette émission que j'adore. Non, c'est une très bonne question, parce que là, en plus, le CETA, on a un problème fondamental dans tous les accords que nous allons négocier. Parce que, est-ce que c'est les accords qui sont négociés à 27 ou à 28? Là, vous le dites, le CETA, le Canada fait ses exportations vers la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne va donc sortir d'un accord qu'elle a négocié, donc à certaines conditions, en pensant notamment investir le marché britannique et ensuite le marché européen. Et là, d'un seul coup, la dimension géographique et le nombre de signataires changent. Je suis désolé, ça remet en cause le CETA, ça remet en cause aussi le TTIP. Parce que là, il faut tout remettre à plat. Moi, je suis même partisan de tout stopper. En attendant d'y voir plus clair, parce qu'on ne sait pas, et même nos partenaires, n'ont pas intérêt à négocier avec l'Union européenne qui est à 27 ou à 28 ou à 27,5.
Emmanuel Morel, je vois que vous êtes venu à cette émission avec tout le document du CETA.
C'est la première fois que je le vois. Et
c'est la première fois qu'on le voit. Je suis désolé, pour ce débat, on dispose de 24 minutes.
Ouais, ça
déjà,
va pas
tout ça, c'est discuté au niveau européen le 29 juin et le 5 juillet. Donc le revirement de bord de la Commission européenne. On n'a pas pu trop en parler à cause du Brexit, à cause de l'euro et autres. On a décidé de revenir dessus. Je vous sens un petit peu frustré peut-être de ne pas avoir pu aller en profondeur et lire tout ce document. Mais ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous dans les mois à venir. Parce qu'à mon avis, ou même dans les semaines, parce qu'on va devoir en reparler. Juste donc pour conclure sur ce débat, la Commission européenne a-t-elle abandonné des pouvoirs ? Emmanuel Morel, oui ou non ?
Non.
Non, ok. Non. Charles de Marcilly ?
Oui, une partie de ses compétences, mais pour des raisons politiques objectives.
En matière de commerce international, Jean ?
La Commission a fait de la politique.
Et donc c'est bien.
Et j'en félicite.
Très bien. Messieurs, nous allons accueillir Maya de la Baume pour ses coulisses de l'Europe juste après le journal, ainsi qu'Éric Scholl de Courrier International pour sa revue de presse. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Toujours avec Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste français, entre parenthèses frondeur. Charles de Marcilly, directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles, entre parenthèses pas franchement frondeur. Et puis Jean Quatremer de Libération et du bloc coulisses de Bruxelles. Là, il n'y a même pas besoin de notes de bas de page. Bonjour Maya de la Baume.
Bonjour.
La pétillante, la sémillante, ça fait toujours plaisir à Jean Quatremer quand on vous donne ces adjectifs-là. Journaliste de Politico pour votre chronique Les coulisses de l'Europe. J'allais dire les coulisses de Bruxelles, mais ça, c'est très marqué. Vous allez nous parler du Parlement qui compte rendre le financement des partis eurosceptiques et marginaux plus difficile.
Ah, c'est pas forcément eurosceptiques et marginaux. C'est un renforcement des critères de financement de partis qui ne sont pas les partis politiques au Parlement européen, qui sont les formations politiques, et ça peut être ce qu'on appelle les partis pan-européens. Je vais l'expliquer.
Vous allez nous expliquer tout ça. En gros, les partis politiques, les groupes politiques au Parlement européen et les partis politiques perçoivent des fonds.
Oui.
On parle de millions d'euros. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que certaines responsables politiques françaises avait autant envie de créer un groupe politique au Parlement européen ces derniers temps, parce qu'il y a de l'argent à la clé, a priori peut-être de moins en moins. On va donc y revenir dans le cadre de votre chronique, de même que dans le cadre de la revue de presse européenne. Nous irons au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Lituanie, et ce avec notre ami Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International. On voyage dans 500 millions d'Européens pour réagir, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Oui, pénétrez dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. On va parler d'argent avec vous.
Oui, j'adore l'argent.
D'accord.
Voilà, en fait, il y a un rapport non public pour l'instant qui a été rédigé par le secrétaire général du Parlement européen qui s'appelle Klaus Welle.
Vous nous dites que c'est une exclusivité politico.
C'est très exclusif. C'est une exclusivité politico. Voilà, personne d'autre ne l'a eu ce rapport.
D'accord.
En fait, ce rapport, il dit quoi ? Il dit tout simplement que on va renforcer les critères de financement du Parlement européen pour... Alors, on ne parle pas des groupes politiques, des partis politiques du Parlement européen, mais on parle des partis, en fait, qui sont... qu'on a le droit de créer, qui sont en fait, à partir du moment où vous avez à peu près des représentants dans 7 parlements nationaux ou assemblées régionales ou au Parlement européen, ou alors si votre parti a obtenu au moins 3% des votes dans les dernières élections du Parlement européen, vous pouvez tout à fait solliciter un financement du Parlement européen. Simplement, c'est que ces bases-là, ces critères-là étaient jusqu'à maintenant établis. Klaus Welle a décidé qu'il fallait les changer parce que ça veut dire que le Parlement européen finalement finance des formations politiques qui n'ont pas de députés, enfin qui n'ont pas forcément un député européen.
Et je me souviens que justement dans une de vos chroniques il y a quelques semaines, on avait parlé du financement d'un parti européen néo-nazi ou d'un rassemblement néo-nazi. C'est ça l'origine ?
C'était oui, le meilleur exemple, c'est ce parti, cette formation politique suédoise qui a organisé une protestation contre l'Union européenne il y a quelques temps, je crois qu'il était il y a quelques mois, et qui avait obtenu en 2016 600 000 euros, si je ne me trompe pas, de financement du Parlement européen. Ce qui veut dire qu'ils allaient financer cette contestation alors qu'on est dans un système un peu étrange de, voilà, de
Jean,
conflit.
Ça pose une vraie question qui n'a jamais été tranchée en fait au sein des institutions européennes. Est-ce que c'est à l'Europe de financer des formations dont le but est la destruction de l'Europe? Imaginez qu'en France, vous ayez un parti politique, un groupuscule, ou je ne sais pas quoi.
Monarchiste.
Non, pas monarchiste. Ça, c'est un changement de régime. C'est autre chose. On peut très bien vouloir, par exemple, que tous les pouvoirs européens soient concentrés entre les mains de Jean-Claude Juncker. Pourquoi pas? On peut défendre ça.
C'est une super idée.
Voilà, ça, c'est une super idée.
Je prédis un énorme succès à cette proposition.
Non, mais je veux dire, avoir un super président. Ce que
donc,
vous
je cite Emmanuel Morel, ce serait une super idée. Donc,
ça, c'est un changement de régime. Non, un groupe qui viserait la destruction de l'État. Et par exemple, vous avez, je sais pas, une sorte d'ETA, pas forcément violente, hein, une ETA qui dit, ben voilà, indépendance du Pays Basque, indépendance de la Bretagne, etc. Est-ce que la République française financerait de tels groupes? Évidemment, non, puisque c'est contraire aux objectifs de la République, à la constitution même de la République. Donc nous, est-ce que, en tant qu'Européens, on doit financer des groupes néo-nazis, des groupes fascistes ou des groupes de gauche radicale qui ont pour objectif de faire exploser la machine? Alors ils disent tous, ah mais non, nous on veut pas supprimer l'Europe, on veut une autre Europe, oui, l'Europe des nations, vous savez, celle qui existait avant 45, elle a connu tant de succès. C'est cette Europe-là qu'on veut. Oui, mais non, c'est pas le but. Donc, quand on remet en cause les fondements du traité de Rome, moi, je pense que ça pose un problème fondamental. Et il faudrait peut-être s'interroger. Ça fera mal, mais il faut s'interroger.
Maya, est-ce que c'est une manière, donc, cette initiative de Klaus Welle, le secrétaire général du Parlement européen, initiative pour l'instant confidentielle, est-ce que c'est une manière de contrer l'expansion, clairement, des partis
oui,
extrêmes?
Oui, bien sûr.
En Europe,
bien
ça sûr. Devient peut-être urgent aussi avec le Brexit.
Oui, bien sûr, parce que le Parlement européen finit, en fait, par financer des partis qui veulent détruire l'Europe et qui ne sont pas forcément, qui ne répondent pas à des critères qui ne sont, enfin, je pense, pas assez drastiques. Donc, en fait, l'idée maintenant de VLE, ça va être de pouvoir, de faire en sorte que ces partis-là soient obligés d'avoir un député au Parlement européen pour recevoir un financement. Oui, et ça, je pense que ça me semble.
Et ça serait mis en place quand, a priori?
2018, d'après ce que j'ai compris. Ils 2018. Sont en train de faire ce rapport et ça va être ensuite passé en commission, enfin, tout le processus.
Il y a une sélection qui s'effectue. Comment est-ce qu'ici, ils peuvent décemment regarder et se dire, tiens, c'est les bons petits néo-nazis suédois, allez, 600 000 euros.
C'est 3% là, les voix.
Ce montant puisse être bloqué. Il y aura beaucoup de sollicitations une fois que c'est
cool. Emmanuel Morel,
donc,
vous
en pensez cette responsabilité donc, d'octroyer...
Jean Quatremer qui disait, en France, un parti ou un rassemblement qui militerait pour la destruction de l'État, c'est pas possible parce que ce serait contre la Constitution, contre les objectifs du pays. Les traités de Lisbonne, a priori, les traités européens, il parle d'une intégration sans cesse plus étroite de l'Union européenne. Donc, a priori, ça va à l'encontre des principes européens aussi.
Mais je sais pas sur quel terrain on se place. Parce que si on se place sur le terrain de... Vous regardez, les législations sont un peu différentes en France, en Allemagne. En Allemagne, par exemple, dans la Constitution même, vous avez marqué qu'il y a un certain nombre de principes auxquels les partis politiques doivent pas déroger, sinon ils sont pas reconnus comme partis politiques. En France, c'est un petit peu plus lâche, plus souple, je veux dire. Et le principe en France, c'est assez simple, c'est si vous faites des voix à des élections, vous bénéficiez de subventions d'État. Plus vous avez de députés, plus vous avez d'argent, mais même si vous n'avez pas de députés, si vous atteignez un certain seuil électoral, vous bénéficiez de subsides publics. Ce qui est normal, c'est le financement de la vie démocratique. Donc j'ai pas tout exactement compris par rapport à ce qui nous attend au niveau européen. Ce que je trouve normal, c'est qu'à partir du moment où vous avez des députés au Parlement européen, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance pour porter une parole, que vous bénéficiez de subventions publiques, ça se défend. Je me méfie quand même de ceux qui disent on ne finance que ceux qui aiment l'Europe, et ceux qui ne l'aiment pas ou ceux qui sont sceptiques, on leur donne pas d'argent, parce que c'est introduire des différences au sein du peuple.
J'ai pas dit sceptique, hein, ceux qui veulent le détruire. C'est la question. Non, c'est une question.
Mais je n'ai pas de réponse.
Hein.
Détruire, ça dépend. Parce que si vous dites fidélité au traité de Rome, là, je m'excuse, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le traité de Rome et qui ne sont pas forcément des destructeurs de l'Europe. Les néo-nazis, là, on est sur un cas un petit peu différent parce que c'est des gens qui sont pour détruire l'état de droit. Donc les valeurs fondamentales dans lesquelles se reconnaissent l'Union européenne, mais aussi les États membres. Donc là, c'est encore un problème différent.
Sachant que souvent, on voit dans les groupes eurosceptiques dont l'intention est de détruire l'Europe, qui travaillent ensemble entre groupes européens.
Soyons parce que, par exemple, on peut pas dire ça.
Je me souviens que Nigel Farage, à l'époque, était déjà député européen, avait alloué les fonds dont il disposait ici au Parlement européen
au Front National au moment de la campagne de 2005 sur le traité constitutionnel en France pour avoir plus de poids et pour pouvoir lutter contre le traité. Charles.
Qui est-ce qui prend cette responsabilité au sein du Parlement européen ?
Question de Charles à Maya de la Beaune.
C'est l'administration ou c'est,
non, alors justement,
est-ce que ça, c'est validé ensuite par la plénière ?
Pour répondre à ta question, dans ce rapport, il va y avoir l'idée de créer une autorité indépendante qui va superviser le financement des partis politiques. C'est une des idées que Velle a mis dans le rapport. Après, le rapport, il va être... On est encore au stade de, voilà,
de réflexion,
donc on va voir comment ça va se passer.
En tout cas, résumé des discussions, faut-il concentrer tous les pouvoirs entre les mains de Jean-Claude Juncker ? Ce serait une très bonne idée, selon Emmanuel Morel, suite la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Comment allez-vous ?
Mais très bien, est-ce que vous êtes prêt à faire un petit tour d'Europe ?
Je suis prêt à faire un petit tour d'Europe si le ton monte. À travers l'Europe, vous êtes un parfait indicateur, un bon thermomètre pour sentir ce qui se passe. Je rappelle évidemment que vous êtes le patron de la rédaction de Courrier International. Alors, commençons par le Royaume-Uni. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là. Armées, les femmes pourront combattre en première ligne. Tiens.
Oui, c'est une petite nouvelle comme ça qui est venue, c'est une des dernières décisions de David Cameron, hein. C'est le fait d'autoriser les femmes, non pas à être, à rentrer dans l'armée, ça fait longtemps qu'elles participent à l'armée, mais maintenant, elles pourront participer, si vous voulez, au combat, dans l'infanterie ou dans la division blindée. Alors, c'est intéressant, il y a eu une grosse étude qui a été menée, le Guardian nous raconte ça, sur leur aptitude physique, et qui a conclu, ben voilà, il n'y a aucune raison d'empêcher les femmes d'accepter des postes de combat. Même si ça reste quand même difficile, parce qu'il va y avoir un test physique. Ce test physique, c'est une course à pied de 13 km avec 25 kg sur le dos. Autant vous dire que c'est quand même... Il faut y arriver. Normalement, selon le Guardian, sur les 9% de femmes que compte l'armée britannique, 4,5% d'entre elles seulement, c'est-à-dire à peu près 300 femmes, réussiraient ce test. Et après, sur ces 300 femmes, lesquelles auront envie d'aller se battre dans l'infanterie, eh bien, une trentaine maximum.
Quelle galanterie, hein, ces grands Bretons. Ladies first, finalement. Vous en pensez quoi, vous, Maya de la Beaune ? Vous avez envie de monter au front ?
Ben moi, si j'étais britannique, là, tout de suite, j'irais monter au front tout de suite.
Ah oui. Mais moi, je ne savais même pas que la question se posait. Je ne savais pas que les femmes ne pouvaient pas être en première ligne.
Bien sûr. Cela dit,
Emmanuel Morel.
Je ne prononcerai pas sur ce... Si vous dites que c'est la dernière mesure du gouvernement Cameron, c'est certainement pas celle qui rentrera dans l'histoire.
Oui, mais plein d'autres conneries.
Oui, j'entends, bien sûr. Ouais. Mais c'est quand même une occasion pour nous de rendre hommage à des combattantes. Parce que on n'a pas attendu des règlements pour qu'il y ait des femmes qui, dans des zones de conflit, s'engagent, se battent. Regardez les Kurdes, par exemple, aujourd'hui, contre Daesh. Franchement, ça mérite plutôt un coup de chapeau.
Jean. Moi, j'aimerais bien vous voir faire passer ce test avec les 25 kilos sur le dos.
Là, vous parlez avec Maya de la Beaune.
Je m'adresse à vous, Yann Anthony. Ouais. Je pense que ça vous ferait du bien au niveau de la ligne.
Très bien. Vu d'Allemagne, c'est assez déloyal, je trouve. Et d'ailleurs, je pense que nos téléspectateurs auront compris où se trouve la ligne, où se trouve la courbe autour de ce plateau. Vu d'Allemagne, putsch et magouille en mer du Nord, Eric.
Oui, la suite de Zeitung, le journal de Munich, consacre un très long reportage à un petit endroit très peu connu. En fait, c'est un état fantoche qui s'appelle la principauté de Zeeland. Alors, où est-ce que c'est ? Eh bien, c'est au large des côtes britanniques, à une dizaine de kilomètres, et c'est le plus petit état autoproclamé du monde. Et alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'en fait, il a été fondé en 1967. Eh bien, on parle de cet endroit parce qu'on a retrouvé son nom et beaucoup de documents dans les Panama Papers. Et il y a toute l'histoire de cette principauté qui transparaît. Alors, la principauté, je sais que vous connaissez bien, Yann Anthony, mais celle-ci est très particulière. D'abord parce que c'est rocambolesque, puisqu'elle n'est reconnue par personne, il y a des passeports, mais ces passeports ne sont pas acceptés comme des documents de voyage. Elle bat sa propre monnaie, mais en réalité, elle n'a pas de cours en dehors de ce petit territoire. Elle a une constitution, mais pareil, sa constitution n'est pas reconnue. Ses habitants, qui sont les Zeelandais, donc qui habitent sur ce petit territoire, en réalité, c'est une ancienne plateforme qui est de défense antiaérienne qui date de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui... à cette époque, pouvait abriter jusqu'à 200 personnes. Et donc, elle a habité, au cours des 30 dernières années, il y a jusqu'à 100 personnes qui sont des fidèles, qui ont habité là. Il y a eu des putschs, et puis, il y a eu aussi des histoires fiscales, pas possible, des sociétés écrans fondées, et c'est bien pour ça qu'on a retrouvé ce nom dans les Panama Papers. Fantastique reportage de la suite de Zeitung. sur un endroit où aujourd'hui, fini le journal, il ne se passe toutefois plus grand-chose sur cette vieille plateforme qui perdure en mer du Nord. Voilà.
Sea Land en mer du Nord, une sorte de plateforme sur deux pylônes de béton, une sorte de plateforme pétrolière.
On va y mettre Barroso et David Cameron ensemble et ils couleront des jours paisibles.
Oui, mais je pense que si on met David Cameron et José Manuel Barroso là, ça peut être pas mal parce qu'effectivement, s'il y a les Panama Papers...
Alors justement, non, mais ça nous permet, pour une fois, il faut quand même saluer quand l'Europe fait des choses bien. Singulièrement le Parlement européen. Oui. On vient de mettre en place hier la commission d'enquête sur le Panama Papers. C'est une commission d'enquête, donc on a des pouvoirs d'investigation, j'en suis membre, et je peux vous dire qu'on a l'intention d'aller jusqu'au bout pour essayer de bien comprendre le financement à la fois des multinationales, mais aussi des personnalités qui planquent leur pognon dans des paradis fiscaux, et c'est beaucoup de recettes fiscales qui échappent à l'Europe. Là, c'est bien. Là, sur la question de la fiscalité, l'Europe s'engage et fait des choses bien.
Très bien. Vu d'Italie, Eric, des techniques anti-mafia pour démanteler un réseau de passeurs.
C'est la Stampa qui nous raconte comment, effectivement, aujourd'hui, on est obligé de recourir à des techniques qu'on utilise pour la mafia, pour essayer de démanteler ces réseaux. Et on retrouve, il y a beaucoup de similitudes, puisqu'on fait appel donc à des passeurs repentis. Les autorités italiennes, explique le journal, ont mis à jour un réseau criminel qui prospérait en exploitant les flux migratoires. C'était début juillet, une quarantaine de personnes arrêtées. Et on retrouve dans cette enquête, violence, menaces, extorsion, mais aussi donc ces mêmes techniques de repenti, comment remonter les flux financiers, et derrière une organisation qui fait peur, puisque à Palerme, on retrouve une sorte de point de triage des migrants, et puis à Rome, un petit commerce à côté de la gare Termini, qui servait de centrale pour rassembler et consigner les montants qu'on demandait aux migrants pour passer. Voilà, une bien triste affaire.
Charles. Là aussi, l'Union européenne essaye de jouer son rôle en renforçant la lutte contre les passeurs. C'est pas évident parce que c'est pas sa nature, en fait, d'avoir cette force de police, d'investigation, d'être capable de pouvoir contrôler. Oui, des systèmes qui sont comme des systèmes mafieux, évidemment. Et là, il faut jouer en complément avec les différents États et ses différentes fonctions des États. Donc l'Union essaye de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice, mais aujourd'hui c'est un grand succès. Et on a l'impression que quand on va essayer d'en supprimer 10 ou 15, il y en a 100 de plus qui repoussent.
Maya.
Il y a quand même les gardes-frontières, ça a quand même été une des grandes réussites, non, de l'Union européenne ces derniers mois. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la seule vraiment législation qui a été faite et qui est allée jusqu'au bout, non, il me semble.
Et qui était déjà dans les esprits à Bruxelles depuis une vingtaine d'années. Donc, pour le coup, c'était un vieux sac en mer qu'on a réussi à
faire. On parlait en début d'émission d'abandon de pouvoir en matière de commerce international et de négociation. Là, en l'occurrence, effectivement, Maya, c'est peut-être un pouvoir supplémentaire parce que le fait que depuis Bruxelles, il soit possible de diriger un bataillon de 1500 hommes et de les déployer aux frontières, effectivement. Vu de Lituanie, vous nous parliez tout à l'heure, Emmanuel Morel, du Vietnam, sur les traces des migrants vietnamiens.
Oui, c'est un trafic étrange, et c'est ce que nous révèle un hebdomadaire lituanien, Veidas, qui nous explique que depuis 2 ans, il y a un trafic de migrants d'origine vietnamienne qui partent souvent de Russie, qui finissent par arriver, pas forcément directement, mais en Lituanie. Pourquoi ? Parce que on sait qu'entre le Vietnam et la Russie, il y a des liens historiques, mais ces migrants vietnamiens installés en Russie, bien finalement, se retrouvent dans une situation économique qui se détériore actuellement, et ils sont en quelque sorte forcés d'aller chercher à émigrer vers l'Occident, et ils arrivent en Lituanie sans papier, sans aucun soutien, souvent laissés pour compte, et aussi abandonnés même par leur pays. C'est ce que raconte le journal, qui note le manque de considération du Vietnam pour les problèmes et le destin de ces ressortissants partis en quête de Graal à l'étranger. Encore une fois, une histoire de migrants, et c'est le destin de ces pauvres Vietnamiens.
Merci beaucoup, Eric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour cette revue de presse européenne éclairante comme toujours. Merci, Maya de la Baume, pour vos coulisses de l'Europe. Merci, Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste français, qui est venu avec un dossier gros comme ça pour nous parler du CETA. On a quand même réussi à couvrir cette actualité plutôt sur un angle politique, sans rentrer dans le fond du dossier qui est bien compliqué ma foi, mais on y reviendra. C'est une promesse. Merci Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Merci Jean Quatremer de Libération. Merci à Alexandre Rougier qui a préparé cette émission. Merci à Adeline Julie qui me susurre des mots doux toujours dans l'oreille en me disant « il te reste une minute ». Merci à Pascal Simard et ses équipes du Parlement européen qui ont mis en image et en son cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Et nous allons finir en chanson. David Cameron. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ah non. La semaine prochaine, si, c'est même jour, même heure. Mais nous, on sera en vacances. Ce sera le best-of de 500 millions d'Européens. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business. Et puis, bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée après les best-of.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.